Radio Okapi.
Oh, Okapi.
Vaccin contre la souche Bountibougiour d'Ebola. Les recherches se poursuivent dans différents laboratoires du monde. Il y a des avancées, affirme le coordonnateur de l'Africa CDC. Le premier devrait probablement être disponible dans 4 à 5 mois. Vous suivez Dr Jean Kaseya. Nous serons ceux qui vous. Le rapatriement volontaire et coordonné des réfugiés congolais vivant au Burundi se poursuit. 1000 personnes rentrent ainsi au pays chaque jeudi. Toutefois, les réfugiés qui doivent regagner des milieux non encore stabilisés sont invités à la patience. Notre invité, Moussa Ali Rutama, coordinateur provincial du mouvement citoyen Machozi ya Raia. Il s'exprime sur les impacts négatifs liés à l'interruption du trafic sur la route nationale numéro 5 entre Kamanyola et Uvira, des zones contrôlées l'une par l'FC23 et l'autre par les forces gouvernementales. Madame, Monsieur, bonjour. Lutte contre le virus Ebola en République démocratique du Congo. La communauté internationale se mobilise afin de mettre au point un vaccin susceptible de sauver des vies. Selon le coordonnateur de l'Africa CDC, les recherches sont déjà avancées pour développer un vaccin contre la souche Bountibougiour qui n'en dispose pas encore. Toutefois, il précise que certaines procédures doivent être respectées. Le vaccin ne devrait donc pas être disponible avant 4 à 5 mois. Concernant la décision des États Unis de fermer leurs frontières aux ressortissants congolais en raison du virus Ebola, le docteur Jean Kaseya, directeur général de l'Africa CDC, estime qu'une telle mesure ne relève pas de la santé publique. Il est au micro de Blaise Oshindani Kambala.
Nous avons 3 vaccins actuellement en cours et j'ai organisé une réunion le 16. Je vais en discuter avec François Mouyembe puisqu'il va faire partie de ce groupe. Il y a le premier vaccin, comme on a dit, le vaccin Hervé Baumer. Ça, c'est ce que nous poussons le plus avec quelques spécificités sur lesquelles on est en train d'étudier. Le deuxième, c'est le vaccin Shadox des UK. Et le troisième, c'est le vaccin qu'on appelle VSV-BDBV. Ça vient de Texas. Ce sont les 3 vaccins sur lesquels nous travaillons actuellement. Contre Bountibougiour, ça fait plus de 18 ans que cette épidémie est connue. Il n'y a pas de vaccin. Mais je peux vous assurer que si cette épidémie était en Europe, était aux États-Unis, on aurait déjà eu des vaccins disponibles. C'est cela l'iniquité dont on parle. Et maintenant, quand on parle de production des vaccins, Africa CDC, comme le ministre l'a dit, l'Union africaine nous a donné le mandat de diriger cet agenda de fabrication des vaccins et des médicaments en Afrique. Vous savez, il n'y a que 5 pays qui fabriquent ce qu'on appelle en anglais API, un Active Pharmaceutical Ingredient, des ingrédients pharmaceutiques actifs. Le pays qui en produit le plus au monde, c'est la Chine, plus de 90%. Parmi les 5 pays, la RDC, Pharmakina est la seule industrie pharmaceutique en Afrique à produire les API pour la malaria.
Dr Jean Kaseya, directeur général de l'Africa CDC. Sur terrain en Ituri, la MONUSCO joue un rôle important dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola. Cela grâce à son appui logistique au gouvernement congolais. Plusieurs tonnes de matériel de riposte ont déjà été acheminées à Bunia par des vols de la MONUSCO en provenance de Kinshasa, Goma et Nairobi. Sur le terrain, les casques bleus ainsi que le personnel civil de la MONUSCO intensifient également les activités de sensibilisation sur les mesures de prévention contre cette épidémie. Reportage d'Isaac Raymond est rendu par Jean-Claude Loki.
Depuis le 17 mai dernier, date de la déclaration officielle de l'épidémie par le ministre congolais de la Santé, la MONUSCO a mobilisé sa flotte aérienne afin de soutenir le gouvernement congolais ainsi que les agences des Nations Unies engagées dans la riposte. Selon la mission onusienne, environ 5 tonnes de matériel d'urgence contre Ebola sont arrivées lundi à Bunia en provenance de Nairobi au Kenya. Cette cargaison comprenait notamment des équipements de protection individuelle, des fournitures de laboratoire, des médicaments ainsi que des tentes destinées à la prise en charge des malades. 4 véhicules et 2 motos ont également été acheminés à Bunia depuis Goma, dans le Nord Kivu et Entebbe en Ouganda. Par ailleurs, 11 autres tonnes de matériel de riposte contre Ebola sont attendues ce mercredi par vol de la MONUSCO en provenance de Kinshasa et de Nairobi. Dans les différentes bases de la MONUSCO à l'intérieur de la province, notamment à Tiabi, les casques bleus ainsi que la section des affaires civiles mènent des campagnes de sensibilisation contre cette épidémie. Des dizaines de personnes, dont 19 femmes, ont été sensibilisées sensibilisé lundi à l'importance de l'hygiène personnelle ainsi que sur les risques liés à la consommation de viande de brousse, une pratique courante dans cette région. Bounia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Kapi.
Et puis le gouverneur de la province du Nord Kivu invite la population au strict respect des mesures préventives afin de freiner la propagation de la maladie à virus Ebola dans la province. Cet appel intervient après la confirmation de 3 cas suivis de décès dans les zones de santé de Goma, Katwa et Beni. La population est invitée à ne pas manipuler les cadavres, les transports en commun obligés de s'adapter. Quelques-unes de ces dispositions sont rappelées ici par la conseillère du gouverneur du Nord Kivu en matière de santé. Suivez Priscilla Kamala Luanda dans ses propos recueillis par Marc Marofimbo.
Il est strictement interdit de circuler avec un corps sans vie d'un endroit à un autre sans document signé par l'autorité sanitaire compétente. Pour les transports des personnes, chaque chauffeur doit embarquer les passagers à bord de son engin roulant en respectant la capacité d'accueil. Particulièrement, l'attention est attirée sur les chauffeurs de voitures communément appelés Léo. Il en est de même des motards. Il n'est autorisé que les transports d'un seul passager sur chaque moto. À chaque point d'entrée ou point de contrôle et même aux espaces publics, acceptez de vous laver les mains et les prélèvements des températures par un agent de santé. Devant l'entrée de chaque bureau, boutique, magasin, école, église, mosquée, hôtel, restaurant, bistrot, un dispositif doit être placé pour faciliter les lavages des mains avant les contacts avec les personnes.
Et dans cette lutte, l'UNICEF n'est pas en reste. Il annonce le renforcement de ses actions humanitaires et sanitaires à la suite des flambées de maladies à virus Ebola signalées en République démocratique du Congo et en Ouganda. Dans sa déclaration publiée lundi dernier, l'UNICEF insiste sur la vulnérabilité particulière des enfants face aux conséquences des flambées d'Ebola. L'organisation rappelle que ces crises sanitaires perturbent gravement les services essentiels tels que la santé, l'éducation, la nutrition et la protection de l'enfance. D'autres détails avec vous, Élisée Chikota-Chivueta.
L'agence met également en garde contre les effets aggravants de l'insécurité persistante, des difficultés d'accès humanitaire et de la forte mobilité des populations dans les zones affectées, facteurs susceptibles d'accélérer la propagation du virus dans les régions voisines. Pour soutenir les efforts de riposte, l'UNICEF indique avoir déjà acheminé près de 50 tonnes de matériel de prévention et de contrôle des infections vers Bounia. Ces fournitures comprennent notamment des désinfectants, du savon, des équipements de protection individuelle, des comprimés de purification de l'eau ainsi que des réservoirs d'eau. L'organisation prévoit également le déploiement imminent d'une équipe multidisciplinaire d'intervention d'urgence afin d'appuyer les autorités sanitaires dans plusieurs domaines prioritaires, notamment la communication sur les risques et la mobilisation communautaire. Plus de 2000 agents de santé communautaire sont actuellement mobilisés sur le terrain. Toutefois, l'UNICEF estime qu'un renforcement urgent des ressources humaines et logistiques demeure indispensable, particulièrement dans les zones difficiles d'accès.
Et puis, toujours par rapport à Ebola, sachez que l'Organisation mondiale de la santé qualifie désormais d'élever le risque épidémique lié à la souche Bundibugyo au niveau national et régional. Au cours de sa conférence de presse cet avant-midi à Genève, l'OMS souligne que l'épidémie d'Ebola qui a pour épicentre la province minière de l'Ituri n'est pas une pandémie, mais l'OMS craint une propagation rapide du virus au regard de la forte densité de la population et des camps de déplacement dans cette zone. C'est ce qu'affirme Dr Anne Ancia, directeur au pays de l'Organisation mondiale de la santé. Le rapatriement volontaire et coordonné des réfugiés congolais vivant au Burundi se poursuit. C'est chaque jeudi de la semaine que le mouvement s'effectue à partir de camps des réfugiés au Burundi jusqu'au site de transit de Kavimvira dans la ville d'Uvira. Le 5e convoi est attendu ce jeudi 21 mai avec une moyenne hebdomadaire d'environ 1000 personnes. DDT avec Jean Kassami.
Le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés ACR accorde la priorité aux demandeurs dont les zones de retour offrent plus de garanties sécuritaires. C'est dans ce contexte que les réfugiés qui doivent regagner les milieux non encore stabilisés sont invités à la patience. Cas de réfugiés qui doivent retourner dans les localités de la plaine de la Ruzizi. Le vice-gouverneur du site Kivu, Jean-Jacques Elakano, indique que la sécurité est déjà garantie.
La situation dans la plaine de la Ruzizi est sous contrôle et ça incite effectivement nos compatriotes qui sont des réfugiés au Burundi, que c'est là qui exprime les souhaits de rentrer, puissent se faire enregistrer. Mais en attendant, nous sommes en train de nous préparer pour faire face aux défis et nous en appelons à nos partenaires de venir vraiment en aide à nos compatriotes pour leur faciliter le retour rapide.
Certains habitants restés chez eux à Sangé, Luvungi, Katogota et Aluberizi, pour ne citer que ces milliers-là, estiment que leurs compatriotes réfugiés au Burundi peuvent rentrer sans crainte, à condition d'ouvrir un couloir humanitaire pouvant leur garantir une réinsertion socio-économique. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Pendant que vous, pendant ce temps, les combats se poursuivent ce mercredi dans le territoire de Massissi, où la rébellion de l'FCM23 et la coalition Wazalindo s'affrontent depuis 3 jours. C'est précisément dans plusieurs villages des secteurs de Katoi et d'Osso-Banyungu au sud du territoire. Selon des sources locales, les affrontements se concentrent désormais dans le groupement de Nyamaboko au premier, notamment dans les localités de Kazinga et Luke. Précision avec Alain Irung.
Ces combats interviennent après ceux signalés mardi dans le secteur voisin de Katoi. Dans cette zone, la coalition Wazalendo, alliée au FARDC, aurait repris ce mardi le contrôle de plusieurs positions précédemment occupées par les rebelles. Il s'agit notamment des villages Muhahirwa, Ngululu, Nkokwe, Kacheke, Mitimingi, Katoi Centre et leurs environs, renseignent des sources locales. Ce mercredi, c'est dans les villages Kazinga et Luke où des détonations d'armes lourdes et légères sont entendues depuis la matinée. Selon ces sources, le bilan des affrontements reste encore inconnu. Toutefois, l'usage d'armes lourdes par les belligérants alimente une vive panique au sein des populations civiles. La plupart des habitants ont fui leur village pour se réfugier en brousse. Des sources locales redoutent une escalade de la violence dans cette zone déjà fragilisée par plusieurs mois de conflits armés, malgré les appels au cessez-le-feu lancés dans le cadre des processus de Doha et de Washington.
En Congo central, le déploiement d'une unité spéciale de la police au poste de péage de Kasangulu vise à réguler la circulation et à mettre fin au calvaire des usagers de la route nationale numéro 1, RN1. Cet axe stratégique de 360 km reliant Kinshasa à Matadi est devenu ces dernières semaines synonyme d'embouteillage massif et de paralysie du trafic. Cette décision figure parmi les mesures phares adoptées hier mardi à Kinshasa à l'issue d'une réunion de crise présidée par la première ministre. Y ont pris part des représentants de gouvernements provinciaux de Kinshasa et du Congo central, ceux de la Fédération des entreprises du Congo FEC, ainsi que de la Société de péage du Congo Sopeco. Les explications du ministre des Infrastructures et Travaux publics John Banza sur ces mesures sont à suivre dans cet extrait que nous propose Alain Héron.
Oui, il y a déjà des mesures à court terme. Un, c'est le déploiement d'une unité spéciale de la police, de nos forces, sur les lieux, spécialement là où il y a les travaux, à Kasangulu, et au niveau de Triangle Cité Verte. Ça, c'est une mesure concrète et qui est prise maintenant. Deuxièmement, c'est le début effectif des travaux de contournement. Et troisièmement, nous allons analyser la possibilité d'avoir des guichets avancés sur le poste des péages. Donc ce sont des mesures que nous venons de prendre immédiatement.
Et direction le Kasaï oriental, à la rencontre de ces femmes fortes. Elles sont des centaines à s'activer chaque jour au bord de la rivière Lubilanji à Mbujimayi, dans une activité aussi pénible que méconnue, le concassage manuel de grosses pierres pour produire des graviers destinés à la vente. Cette tâche harassante, physiquement éprouvante, est exercée ici dans un environnement où la précarité rivalise avec les risques sanitaires. La délégation du groupe de coordination des partenaires a échangé la semaine dernière avec ces femmes sur leurs conditions de travail. Esther Dalafina nous parle de leur quotidien.
Dès les premières heures du matin, les femmes habitant le quartier Mbinza dans la commune de Dibindi, parfois accompagnées de leurs enfants, descendent dans les lits de la rivière Lubilanji. Elles soulèvent des lourds blocs de pierre, les brisent à coups de marteau, puis trient les éclats pour en faire des graviers. Jeanne Kabangu affirme que son travail présente des risques. Casser les pierres à longueur de journée, ce geste répétitif laisse des séquelles visibles, comme le témoigne Nana Njiba.
Des blessures aux mains. Et et une fatigue excessive.
Malgré leur rôle essentiel dans la chaîne d'approvisionnement en matériaux de construction, ces femmes affrontent une précarité extrême. Leur revenu dépend du volume de gravier produit, souvent vendu à des prix dérisoires. Elles gagnent en moyenne 5 000 à 10 000 francs congolais par jour, un montant insuffisant pour couvrir les besoins essentiels d'un ménage. Une travailleuse, le visage couvert de poussière, affirme que ce travail nous détruit, mais c'est le seul qui nous reste.
Nous pour nourrir nos familles, scolariser nos enfants, nous payons les loyers, nous n'avons plus rien à faire.
Pour certains observateurs, ces femmes qui portent à bout de bras une activité essentielle pour la ville méritent d'être vues, entendues et protégées. Esther Ndalafina Mbujimayi, Radio Okapi.
Et puis sachez que le gouverneur de la province du Kasaï, Crispin Mukendi, a remanié le gouvernement provincial hier mardi. Cette nouvelle équipe compte 10 ministres, dont 2 femmes, comme dans le précédent exécutif. 4 nouvelles figures font leur entrée, nous dit André Katende Ngalamouloumé.
Parmi les nouvelles figures, Cédric Ngwama remplace Paul Kalamba au ministère des Finances et de l'Économie. Rose Kalongo succède à Odette Nkama au ministère de la Santé publique, du Travail et de l'Emploi. Pierre Mwamba est nommé ministre de l'Éducation et de la Culture en remplacement de Gérard Bosco Mundeke. De son côté, Paul Kalamba prend désormais la tête du ministère des Infrastructures et de l'Urbanisme, portefeuille jusque-là occupé par Pierre Mwamba. Parmi les ministres reconduits figurent Peter Chiswaka à l'administration territoriale et à la sécurité, Jacob Pembelongo à l'agriculture et au développement rural, ainsi que Bazin Pembe, maintenu au budget, au plan et à la communication. Jeannot Kazadi conserve les portefeuilles de mines et hydrocarbures. Ben Dubois Kanyenda reste au ministère des Transports et Voies d'accès. Enfin, Alphonsine Bundu est reconduite à la tête du ministère du Genre, des Affaires sociales, de la jeunesse, des sports et loisirs. Kananga, André Katende Ngalamouloumé, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Le président chinois Xi Jinping a salué les liens inébranlables entre la Chine et la Russie. Il a dit lors d'un entretien avec Vladimir Poutine aujourd'hui au mercredi, alors que les deux dirigeants se sont rencontrés en Chine pour réaffirmer leur alliance. Les analystes estiment que Poutine pourrait profiter de cette visite pour faire avancer le projet du grand gazoduc Power of Siberia 2 qui reliera la Russie à la Chine en passant par la Mongolie. Ce serait une alternative terrestre aux importations de pétrole brut par voie maritime en provenance du Moyen-Orient, vu la tension autour du détroit d'Ormuz.
L'invité.
Il s'agit de Moussa Ali Routama, coordinateur provincial du mouvement citoyen Machozi Yahaya. Il s'exprime sur les impacts négatifs liés à l'interruption du trafic sur la route nationale numéro 5 entre Kamanyola et Uvira. Cette mesure a été annoncée par les autorités politico-militaires du Sud-Kivu, réunies la semaine dernière au siège des institutions provinciales dans la ville d'Uvira. Moussa Ali Routama s'entretient avec Jean Kassami.
Monsieur Moussa Ali Routama, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
Comment évolue la situation dans la plaine de la Ruzizi, surtout en rapport avec l'interdiction aux véhicules quittant Bukavu de se rendre directement à Uvira et vice-versa?
La situation reste très préoccupante et surtout très confuse dans la plaine de Ruzizi. Depuis le 14 mai, la RN5 connaît des fermetures répétitives au niveau des Katogota, plus précisément à l'endroit appelé 100 mètres. À un certain moment, la route a été ouverte pendant quelques heures et avant d'être de nouveau fermée. Les véhicules quittant Bukavu vers Uvira et ceux venant d'Uvira vers Bukavu ne circulent plus normalement. Plusieurs passagers, d'ailleurs, se sont retrouvés la fois passée bloqués entre les positions des FARDC qui refusaient qu'ils avancent vers Uvira et ceux des rebelles qui les ont interdits encore de retourner à Kamanyola. Ils se sont retrouvés entre des barrières de FARDC et des rebelles de la FCM-23. On ne peut pas parler d'une reprise normale du trafic. La situation change d'ailleurs presque à chaque instant. Il y a eu des moments où seuls les passagers déjà coincés entre les deux barrières ont été autorisés à continuer vers Uvira. mais sans véritablement parler d'une reprise du trafic normal, parce que ceux qui étaient au niveau de Luvungi n'ont pas été autorisés d'avancer vers Kamanyola et Bukavu.
Il y en a qui ont des produits périssables.
Nous avons vu des camions remplis de tomates, d'oranges, de légumes et d'autres marchandises périssables d'ailleurs restées immobilisées pendant plusieurs jours sous le soleil, là à Luvungi et de l'autre côté à Katogota. Certains commerçants parlent déjà de pertes très lourdes car plusieurs produits commencent à pourrir avant même d'atteindre les marchés d'Ouvira ou de Bukavu. Il y a des familles entières qui dépendent de ces commerces pour vivre. Mais il n'y a pas que des pertes économiques, monsieur. Sur place, nous avons vu des enfants, des femmes enceintes, des malades, des étudiants et des voyageurs passer des nuits dehors, dans la forêt, sans hôtel, sans restauration, parfois même sans accès à l'eau potable. Beaucoup dormaient dans les véhicules ou à même les sols. La souffrance humaine était tellement visible pour ceux qui étaient bloqués entre les deux barrières.
Quelles sont les raisons principales évoquées par les autorités de la place qui font à ce qu'ils puissent prendre des mesures qui affectent négativement l'économie des citoyens congolais?
Les autorités avancent principalement des raisons sécuritaires. Les restrictions seraient liées aux opérations militaires et aux préoccupations sécuritaires dans cette partie de la plaine de Ruzizi. Et surtout après les retraits observés de la FCM-23 dans la plaine de la Ruzizi, des sangs jusqu'à Kamanyola.
Y a-t-il d'autres solutions alternatives qui pouvaient être envisagées et permettre la fluidité de la circulation tout en rassurant que la sécurité est bien garantie?
Nous comprenons quand même les impératifs sécuritaires dans ces contextes de guerre, mais nous estimons qu'une politique sécuritaire efficace doit aussi tenir compte des réalités non seulement sociales, mais aussi économiques de la population. Quand une route aussi stratégique qu'est la RN5 est fermée pendant plusieurs jours, sans mesure d'accompagnement, ce sont justement les civils qui payent les prix forts. Nous pensons qu'il était possible d'envisager des solutions intermédiaires au lieu d'une fermeture totale comme on l'observe. Par exemple, les autorités pouvaient organiser des convois sécurisés, instaurer des heures précises de passage. Pourquoi pas aussi renforcer les contrôles militaires aux points sensibles ou encore permettre le passage humanitaire et commercial sous surveillance? Parce qu'aujourd'hui, la fermeture prolongée de cette route crée presque une crise humanitaire dans certains endroits comme Katogota et Luvungi. Et d'ailleurs, il y a des réfugiés aujourd'hui qui quittent Burundi qui sont aussi bloqués pour revenir dans leur village, dans leur localité.
Merci, monsieur Moussa Ali Rutamu.
Moussa Ali Rutamu, coordinateur provincial du mouvement citoyen Machozi Yaraya. Voilà qui met fin à ce journal préparé par Alain Rung et les Echikota Chivuita avec Alain Ngoy à la mise en onde, Babel Pongo Massimango à la présentation. Merci encore une fois. Bon après-midi.